connaissez peut-être cette anecdote. Juste après la mort de son père, Freud se met à collectionner des blagues, des histoires drôles, des bons mots. Il les consigne sur un petit carnet sans trop savoir ce qu'il en fera. Ce sont des histoires de mendiants, de marieurs, de personnages qui appartiennent à la tradition de l'humour juif. Ce sont des traits d'esprit, en fait, qui font la part belle au jeu de mots, mais aussi à la fulgurance et à la répartie. Il prend cet exemple d'un prétendant qui ne comprend pas pourquoi on lui présente une femme et qui dit à l'oreille de l'entremetteur « Mais pourquoi cette femme, elle est laide, elle louche, elle a de vilaines dents ?» Et l'autre lui répond « Vous pouvez parler plus fort, elle est sourde aussi. » Alors évidemment, ce sont des blagues du début du siècle dernier, mais ce qui est intéressant, c'est que Freud les collectionne frénétiquement. Celles qui, dans sa vie, l'ont fait le plus marrer. Il le fait pour lui, pas du tout pour en tirer un livre, pour les publier. C'est un travail de deuil, une façon de répondre à la douleur, à la honte, à la culpabilité. C'est aussi une réponse à toutes les humiliations que son père a vécues. Et puis c'est une manière de s'approprier la parole perdue de sa famille, de la revendiquer, de s'inscrire dans une tradition, de la perpétuer. C'est une anecdote que j'aime beaucoup parce qu'elle montre bien que le rire a des vertus insoupçonnées. C'est pas qu'un plaisir immédiat, c'est beaucoup plus que ça, surtout lorsqu'apparemment, on n'en a pas le droit.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, où mon invité d'aujourd'hui trouve-t-il encore la force de rire. Il est l'une des grandes voix de la littérature ukrainienne, révélée en France par son livre Le Pingouin, et coutumier de pas de côté salutaire. Trois semaines avant l'invasion de son pays par la Russie, paraissait son dernier roman Les Abeilles Grises, dans une traduction de Paul Leken. C'est l'histoire d'un grand voyage, celui d'un apiculteur du Donbass, dans un pays où plane la menace de la guerre. Bonjour, André Kourkov. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, de quoi sauve le rire? De quoi sauve l'humour pour vous?
Oui, l'humour pour moi, c'était toujours un médecin. Un moyen de rester quelqu'un de normal, c'est-à-dire pas influencé par l'idéologie soviétique ni par les choses qui s'est passées après la chute de l'Union soviétique. Je suis jusqu'à aujourd'hui habitué de trouver les raisons pour rire, pas nécessairement dans la vie politique, mais dans la vie quotidienne.
Même aujourd'hui, même en des temps aussi sombres que ceux que votre pays traverse en ce moment?
C'est une bonne question parce que à partir du 24 février, pour 2-3 semaines, je ne pouvais pas rire et j'ai pensé que j'ai perdu le sens de mort. Ça m'est passé déjà en 2014, pendant Euromaïdan, quand une centaine de gens ont été tués sur le Maïdan à Kiev. Et cette fois, c'était la même situation. L'état était très pas agréable, c'est-à-dire mon état d'esprit. Mais la première fois, je suis sorti de l'Ukraine en guerre. Je suis sorti pour aller à Londres pour quelques interviews. Et là, j'ai retrouvé l'humour, peut-être grâce à l'humour anglais. Parce que j'aime l'humour anglais. En fait, il y avait beaucoup des blagues soviétiques russes qui moquaient l'humour anglais.
Il faut dire que l'humour est au centre de votre travail. André Kourkov, il paraît que plus jeune, dans une Ukraine qui était encore soviétique, vous participiez tous les ans à un concours illégal de racontars. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ah oui, en fait, j'ai commencé à écrire prose à l'âge de 13 ans, 14 ans, sous influence de mon frère, 7 ans plus âgé, qui était un dissident antisoviétique, et ses amis qui s'assemblaient toujours dans la cuisine de notre appartement petit pour partager les blagues politiques, pour partager la littérature interdite.
Le concours, il était illégal, André Kourkov, et ça dit quelque chose de la place de l'humour dans l'Ukraine soviétique au fond. Dans quelle mesure le rire et l'humour s'inquiètent toujours le pouvoir?
Moi maintenant, mais dans le temps soviétique, c'était une forme de protestation, c'était une forme de montrer ton vraie attitude vers la vie politique, vers l'idéologie soviétique communiste. Et comme ça, je crois, toute la population participait dans ce concours, on peut dire, quotidien, dans la cuisine de chaque appartement. On a échangé toujours avec des blagues qui étaient nouvelles. Et je me souviens une blague quand, je ne sais pas, peut-être c'est Mitterrand a rencontré Brejnev et demandé « Est-ce que vous avez des hobbies ?» Et Brejnev lui dit « Oui, j'ai fait une collection des blagues sur moi. » Et président Mitterrand demandait « Et combien de blagues vous avez déjà assemblées ?» Et Brejnev a dit « Oui, trois prisons. »
Oh là là.
C'est-à-dire l'assemblée des raconteurs de blagues.
Et oui. Il en reste quoi en vous, dans votre littérature aujourd'hui, de cet esprit profondément dissident, à votre avis?
Je suis habitué à l'idée que les écrivains doivent être toujours critiques sur la vie politique dans le pays où ils habitent et sur les politiciens.
Mais diriez-vous que cet esprit de résistance, il est ancré dans la mentalité même du peuple ukrainien?
Oui, bien sûr. En fait, il y a plus de résistance chez les Ukrainiens que chez les Russes, parce que les Ukrainiens sont les anarchistes naturels.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Parce que dans les 16e, 17e siècle, l'Ukraine était un territoire indépendant, avec des élections des chefs d'État, qui s'appelaient Hetman, et avec des élections des officiers. Et il avait aussi des services diplomatiques, des services légaux, tout ça, mais les gens étaient très indépendants. Il n'était jamais d'accord un avec l'autre. Et après, un Hetman était élu, il avait déjà des intrigues pour lui remplacer avec quelqu'un d'autre. Et comme le résultat, cette mentalité est revenue après la chute de l'Union soviétique. Le preuve, on a maintenant plus que 400 partis politiques enregistrés dans le ministère de la Justice d'Ukraine.
André Korkov, qu'est-ce qu'il y a de plus anarchiste en vous?
Je ne sais pas, on peut dire que parfois je bois whisky, le vin rouge, et encore whisky et gin tonic, et c'est bien sûr c'est très anarchiste.
C'est complètement anarchiste, ça je ne vous le fais pas dire. Et votre moustache, mais ça on en parlera peut-être plus tard. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que votre livre, Les abeilles grises, annonce d'une certaine façon la guerre qui se joue actuellement en Ukraine. Cette guerre, dans quelle mesure est-ce que vous l'aviez tous vu venir?
Je pensais en fait que la guerre est inévitable, mais j'ai cru que ça ne sera pas la guerre totale comme aujourd'hui.
Mais pour vous, en tant qu'écrivain, le début de la guerre du Donbass que préfigure l'invasion et l'annexion de la Crimée en mars 2014, en quoi ça a modifié le visage du paysage littéraire ukrainien? Quelle littérature est née de ce conflit?
Oui, il faut dire d'abord que en fait, la littérature ukrainienne post-soviétique était toujours très apolitique. Les auteurs ne touchaient jamais des issues sociales, politiques. Ils écrivaient au début sur sex, drugs and rock and roll parce que cette littérature n'existait pas dans l'Union soviétique. Et après, c'était des romans et des récits pour les étudiants, pour les jeunes, sur la vie des étudiants, sur les choses pas très importantes, mais à partir de 2013-2014, la littérature est devenue beaucoup plus militante. Mmh. Et bien sûr, un phénomène qu'on a aujourd'hui en Ukraine, il y a maintenant deux littératures, parce que les vétérans de la guerre à Donbass, à partir de 2014, et il y en a 400 000, ils ont commencé à écrire les livres aussi, les vétérans. Et il y a la littérature écrite par les écrivains traditionnels.
Et vous, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous écrivez en ce moment, André Courtois?
J'écris beaucoup des articles, des essais, j'écris mon journal.
Plus de romans?
Non, j'ai arrêté. J'ai commencé mon nouveau roman avant la guerre, mais le 24 février, j'ai arrêté, je ne pouvais pas continuer.
Pourquoi ça n'est plus possible?
Parce que fiction a perdu la signification. C'est-à-dire que c'est la réalité qui est beaucoup plus importante aujourd'hui. La réalité et la vérité sur cette réalité, parce que il faut toujours combattre pour la vérité avec la propagande russe, parce que la propagande russe est très professionnelle. Ils ont moyens et médias pour partager des fake news, des informations fausses. Et comme ça, je crois, beaucoup des écrivains ukrainiens s'engagent à combattre cette guerre informatique.
Quelles sont les nouvelles qui vous arrivent directement de Kiev, de vos proches ou de vos amis qui sont restés là-bas?
En fait, il y a 30, 40 000 des habitants de Kiev qui reviennent à Kiev chaque jour. Je crois que la ville n'est pas vraiment préparée pour ce retour en masse, parce que peut-être il n'y a pas suffisant de nourriture dans les supermarchés, il y a des problèmes avec transport. C'est plutôt tranquille, mais toujours dangereux, parce qu'il y a des missiles lancés des territoires de Biélorussie, des Crimée, pour détruire les objets d'infrastructures à Kiev, autour de Kiev aussi.
Mais vous, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes, Andrei Kourkov? Est-ce que vous pensez que ce sera possible un jour d'y retourner, de renouer avec votre vie d'avant?
J'espère. Et je vois qu'en fait, l'armée ukrainienne, bien sûr, est beaucoup plus petite que l'armée russe, mais résiste comme une grande armée à cause de l'esprit, à cause de morale, à cause des désirs des Ukrainiens de rester indépendants.
Celle qui ne connaît ni d'avant ni d'après dans cette émission, vous la connaissez, c'est la culture et son actualité au présent. Que se passe-t-il donc aujourd'hui ?
L'Égypte ancienne.
Le musée du Louvre à Paris inaugure aujourd'hui Pharaon des Deux Terres, une grande exposition consacrée à l'épopée des rois de Napata, ces souverains africains venus de l'actuel Soudan qui régnèrent sur l'Égypte aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ. Une aventure historique et flamboyante, retracée le long d'un parcours de 200 pièces, réunissant statues, stèles de hiéroglyphes, sculptures et papyrus. L'occasion aussi de découvrir Pharaon, un court-métrage inédit de Michel Oslo, le père de Kirikou. Le musicien allemand Klaus Schulze est mort à l'âge de 74 ans, multi-instrumentiste, mais surtout virtuose des synthés. Il était l'un des pionniers de la musique électronique contemporaine. D'abord membre des groupes Ashra Temple et Tangerine Dream, il restera l'un des architectes de l'école de Berlin et de sa musique progressive qui inspirera plus tard la veine New Age. En solo, depuis le milieu des années 70, Klaus Schulze nous laisse une soixantaine d'albums et de multiples collaborations, notamment avec l'immense Hans Zimmer.
En tout cas, c'est une porte pour parler d'espoir, ouais, pour en transmettre un peu.
Et quelle porte, cher connard ! C'est le titre du prochain roman de Virginie Despentes. Comme le révèlent nos confrères des Inrocks, la nouvelle livraison de l'autrice de Vernon Subutex est attendue en librairie le 17 août prochain pour la rentrée littéraire des éditions Grasset. Par ailleurs, co-créatrice de La Légende, une nouvelle maison d'édition féministe et queer, Virginie Despentes y co-signera également cet automne Pulp Golden Years, un texte hommage au club lesbien mythique qui a fermé ses portes en 2007.
It's as if movies answered an ancient quest for the common unconscious. They fulfill a spiritual need that people have to share a common memory.
Et enfin, Scorsese and Chill, le cinéaste Martin Scorsese a annoncé qu'il allait lancer une salle de cinéma virtuelle pour projeter des classiques restaurés du 7e art. Chaque début du mois, à partir du 9 mai, un long métrage sera visible sur la plateforme pendant une fenêtre de 24 heures et sera accompagné de discussions avec des historiens, des réalisateurs, des archivistes. Premier long métrage programmé, Je sais où je vais, de Michael Powell et Emmerich Pressburger, une romance gothique sortie en 1945. Le grand écrivain ukrainien Andrei Kourkov, invité de Boomerang ce matin pour parler de son pays, l'Ukraine. Vous qui pourtant êtes né à Saint-Pétersbourg au début des années 60, pourquoi vos parents ont décidé d'ailleurs de s'installer en Ukraine ?
En fait, ma grand-mère habitait dans le banlieue de Kiev, banlieue très intéressante parce que c'était comme un petit village attaché à Kiev. Et ma grand-mère était un médecin. Et elle travaillait dans le sanatorium pour les enfants avec TB, tuberculose. Et mon père était pilote militaire d'essai, stationné près de Leningrad. Et après démission, il a décidé de déménager toute la famille à Kiev pour travailler dans l'usine des avions Antonov.
Mais à quoi ressemblait l'Ukraine soviétique de votre enfance ? Quel pays est-ce que c'était ?
C'était un pays très intéressant. C'était bien sûr très différent d'Ukraine d'aujourd'hui, mais la vie était très agréable. Et en fait, l'esprit des vies était toujours comme Méditerranée parce que les gens ne se dépêchaient pas. Il avait une culture à boire café partout et aujourd'hui encore plus fort.
Et en quoi le pays s'est métamorphosé du jour au lendemain quand l'URSS s'est dissoute ?
Oui, les Ukrainiens sont très vite devenus indépendants. Ils adoraient être détachés du gouvernement, du système, d'État. Et comme aujourd'hui, les Ukrainiens sont petits entrepreneurs indépendants naturels.
Je vous pose la question, Andrei Kourkov, parce que dans un livre comme Le Pingouin, par exemple, écrit au milieu des années 90, vous dressiez un portrait assez impitoyable de l'Ukraine post-soviétique. De quelle Ukraine est-ce que vous nous parliez à l'époque ?
Oui, dans les années 90, c'était le temps très dramatique partout, parce que après la chute de l'Union soviétique, on a eu une crise immense économique, morale, politique, sociale. Il n'y avait pas de garanties sociales, pas de police, par exemple. C'est-à-dire que la police et la mafia fonctionnaient ensemble. J'ai perdu quelques amis qui étaient tués, en fait, dans les années 90, parce qu'ils essayaient d'être des hommes des affaires. Et comme mafia était très active, et chacun qui essayait de gagner de l'argent devait payer commission, pourcentage aux criminels.
Alors la révolution d'Euromaïdan pro-européenne, dont vous avez d'ailleurs tiré un livre qui s'appelle Journal de Maïdan, quels espoirs est-ce que ça a suscité en vous ?
Jusqu'à aujourd'hui, j'attends le moment quand l'Ukraine va être acceptée dans l'Union européenne. En fait, j'espère de voir ça avant la fin de ma vie. C'est un peu étrange parce que ma famille est plutôt britannique. Ma femme et mes enfants sont les citoyens de Grande-Bretagne.
Et vous parlez.
La Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Mais ma femme est pro-européenne aussi.
Et vous parlez français comme moi, André.
Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Peut-être que je parle anglais comme vous.
Non mais attendez, j'étais prof d'anglais moi, donc je parle pas mal.
Je parle pas mal aussi.
Il se trouve que vous parlez également japonais, ukrainien bien sûr, russe,
polonais. Allemand.
Cet intérêt pour les langues étrangères, Andrei Kourkov, il paraît que c'est né de votre passion pour les cactus. Alors là, il faut nous expliquer.
Ah, c'est très facile. À l'âge des 11 ans, j'avais une collection de cactus numéro 7 à Kiev. J'étais membre des clubs d'amateurs des cactus et j'ai cultivé beaucoup de cactus.
Je peux vous le dire, vous étiez très cool parce que le club de cactus, c'est vraiment le club le plus cool au lycée.
J'ai compris que chaque cactus a le nom des familles et encore quelques mots en latin. J'ai appris d'abord la latin botanique et j'adorais cette langue morte. Et après, quand j'ai compris qu'on peut acheter à Kiev les livres en polonais qui ne sont pas édités ni en russe ni en ukrainien, j'ai appris polonais pour lire les polars et les livres traduits d'anglais, de français. Et bien sûr, après, c'était logique d'apprendre anglais et d'apprendre japonais parce que la culture japonaise était très populaire dans l'Union soviétique. Et c'était pas censuré.
Mais dans quelle mesure cette pratique des langues étrangères, ça a nourri votre écriture ? Vous qui écrivez en russe ?
Oui, j'écrivais aussi un peu en anglais, j'écris aussi en ukrainien, mais la langue maternelle reste toujours le russe.
Andrei Kourkov, qu'est-ce qui fait pour vous la beauté de la langue russe ?
La beauté, c'est la possibilité d'expérimenter avec la langue. C'est très important d'être libre avec la langue, c'est-à-dire inventer des mots, des structures grammaire, changer des choses. Et pour moi, il y avait des écrivains des années 1920 en Russie, comme Andrei Platonov, Boris Pilniak, qui jouaient avec le style, avec le texte, comme Georges Perec, en fait.
On parlait de votre attachement à l'Europe et à l'Ukraine. Qu'en est-il de la Russie ? Quel pays est-ce que c'est pour vous ?
La Russie, maintenant, c'est un pays étranger avec des gens que je ne comprends pas.
Quelle expérience est-ce que c'est d'écrire dans une langue, dans la langue de ceux, de celles que vous ne comprenez pas ?
Je dois dire, j'espère que ces gens aussi ne me comprennent pas. Comme ça, c'est deux langues différentes. Et il faut avoir deux dictionnaires différents, séparés. Dictionnaire de la langue russe des Russies et dictionnaire de la langue russe d'Ukraine et du monde moderne, civilisé.
Stop. On va reparler ensemble d'attachement, de langue, de paysage, d'esprit, juste après les Pixies. Where is my mind, France Inter, André Kourkov, Boomerang, évidemment.
Yeah.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Ah ouais, y a pas de doute, c'est vraiment un homme de lettres, hein, quelque part entre Éric Orsenna et Armistead Maupin, physiquement. L'ovale jovial, l'œil bleu, mer d'Aral, le sourire, vaille qui vaille, avec son t-shirt, avec un avion dessus qui lui rappelle, me dit-il, quand il ne payait pas ses voyages parce que son père était pilote quand il était petit, l'écrivain ukrainien Andrei Kourkov, invité de Boomerang pour Les Abeilles Grises, son dernier roman. Votre héros, dans ce livre, il vit dans ce qu'on appelle la zone grise, justement, c'est-à-dire une région qui se trouve à la frontière entre l'Ukraine et les territoires pro-russes à l'est du pays. Cette zone grise, comme vous l'appelez, qu'est-ce qui la caractérise? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
Oui, en fait, la zone grise a la même longueur que la ligne de front. Avant cette guerre, aujourd'hui, c'était 430 kilomètres. Et parfois, il y avait des villages entre des positions des séparatistes de l'armée ukrainienne. Parfois, il y avait des quartiers des villes comme Avdiivka dans la zone grise. Et si on habite dans la zone grise, il faut comprendre qu'il n'y a pas de magasins, pas d'électricité, de gaz, il n'y a pas de postes.
Oui, mais en quoi le gris, c'est une couleur plus complexe qu'on ne pourrait le penser? En quoi ça offre mille nuances?
Et s'il n'y a pas des autres couleur, si on reste que le gris, on commence à comprendre qu'il y a beaucoup de couleurs grises. C'est comme les couleurs des neiges pour les gens qui, pour les nomades de Canada. Et bien sûr, la région de Donbass était toujours gris et noir. Les gens ne voulaient pas montrer qu'ils sont différents. Ils essayaient de vivre comme les gens invisibles.
Mais vous savez, en vous lisant, Andrei Kourkov, c'est ça que je me suis dit. Je me suis demandé si l'écriture, c'était pas tout simplement parvenir à saisir et à nommer toutes les nuances d'une même couleur.
Bien sûr, c'est le devoir de la littérature.
Mais quelle place pour la nuance en temps de guerre, Andrei Kourkov?
Il y a beaucoup plus de nuances importantes pendant la guerre que pendant la vie normale, ordinaire, tranquille.
Pensez à quoi?
Oh, je pensais des sons, par exemple, si on parle des radios, des sons. Le 24 février, on était réveillés avec ma femme à 5 heures du matin par les sons des explosions derrière la fenêtre. C'était la première fois dans ma vie que j'ai attendu la guerre, sans comprendre que c'est la guerre.
C'est vrai que cette zone grise que vous nous racontez, elle a ceci d'intéressant, que c'est un espace frontalier. Ce mot frontière, qu'est-ce qui vous évoque à vous, Andrei Kourkov?
Le mot frontière, à partir de l'Union soviétique, par terre était toujours un espace dangereux. C'est-à-dire où tu n'as pas les mêmes droits comme si tu es loin de la frontière. Et en fait, j'ai ce sentiment chaque fois maintenant aussi, avant de traverser la frontière ukrainienne pour aller en Slovaquie ou en Roumanie vers l'aéroport le plus proche, parce que je sens toujours un peu de peur à l'ancienne, comme dans l'Union soviétique. Tu approches la frontière, tu ne sais pas si tu peux traverser ou tu vas être arrêté ou tu vas être détenu.
C'est drôle parce que quand je vous entends, là j'ai l'impression que vous parlez aussi de votre statut d'écrivain. J'ai l'impression qu'à travers l'exploration de la frontière, vous nous dites aussi quelque chose de ce que c'est un écrivain, une figure de la marge, toujours.
Oui, c'est la marge, mais bien sûr les écrivains cherche les situations dramatiques pour montrer le comportement des gens dans ces situations. Parfois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière la frontière. Est-ce qu'il y a vie ou il y a la mort, là? Ou qu'est-ce qu'on attend, là?
Quand est-ce que vous avez commencé à écrire, au fond?
Avec poésie, à l'âge de 7 ans, les blagues à 13 ans, et les récits peut-être à 14 ans, et après c'était les romans.
Mais il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez me dire, que la période qui a été particulièrement propice à l'écriture, c'est celle où vous avez travaillé comme gardien de prison à Odessa.
C'était mon service militaire, et en fait j'ai commencé à écrire pour les enfants, livre pour les enfants dans la prison d'Odessa. C'était simplement le désir d'échapper à la réalité. C'est-à-dire, c'est caché dans l'enfance, dans les mémoires d'enfance, dans les toutes choses d'enfance qui construisent les murs psychologiques et te défendent contre la réalité que tu n'acceptes pas.
Alors, quel genre d'histoire est-ce que vous racontiez?
J'écris, par exemple, cette histoire sur les aventures d'un petit aspirateur gaucha qui au début ne sait pas qu'il est un aspirateur parce que son père fait tout le travail.
J'ai envie de le lire du coup là. Dans quelle mesure écrire, André Kourkov, c'est peut-être ça, tout simplement, c'est s'affranchir des murs, des frontières.
Je suis d'accord, mais bien sûr, pour écrire, il faut être libre, sentir libre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de frontières dans la tête, mais il y a des frontières, bien sûr, autour de toi, avec création, avec imagination, tu peux changer les frontières qui existent et jouer avec toutes les limites. Bien sûr, il y a toujours des tabous qui restent pour les écrivains, mais en fait, je pense que je suis très heureux parce que la littérature m'a donné ma liberté. Je peux faire ce que je veux, faire les choses qui sont mal reçues par les politiciens en Ukraine aussi, mais comme je suis un écrivain libre, je pense que j'ai droit de faire ça.
Vous nous avez écrit un texte, André Kourkov, ce matin. C'est un cadeau et j'aimerais bien que vous nous le disiez.
Merci.
Ces derniers temps, je ressens une sorte de malaise géographique. Il a commencé le 25 février, au second jour de l'agression russe, quand ma femme et moi avons réalisé que nous devions quitter Kiev. Ce jour-là, la géographie de ma vie était encore claire. Nous avions décidé de partir pour notre maison de campagne dans un village à 90 km à l'ouest de Kiev. C'est seulement plus tard, alors que nous étions déjà arrivés là-bas, qu'il est devenu clair que nous devions partir encore plus loin. Pas seulement parce que notre village s'est situé sur le trajet des chars russes envoyés de Biélorussie pour occuper Kiev, mais aussi pour aller à Lviv, où nos enfants et leurs amis s'étaient retrouvés au déclenchement de la guerre. Ma fille avait pris l'avion spécialement depuis Londres pour ce voyage à Lviv et nous devions à présent la renvoyer à Londres. Mais les avions depuis l'Ukraine ne décollaient plus. Ainsi commença notre épopée qui continue à ce jour. La géographie est généralement une science prévisible, mais pas pendant la guerre. La guerre ne change pas seulement les frontières des États et les paysages. La guerre rend imprévisible la géographie personnelle de chaque personne qui entre dans son territoire. Donc, je ne sais pas où je serai dans un mois ou deux ou trois. Je peux prévoir quelque chose, je peux même dire que je vais aller à Marseille ou à Londres, mais mes suppositions, ou plutôt mes désirs, ne peuvent pas être qualifiés de projets, même si j'ai des billets d'avion pour des dates précises. Non, je ne me plains pas. J'ai le sentiment de m'être adapté à ces nouvelles circonstances. J'ai appris comment prévoir les trajets pour que mes voyages d'Ukraine jusqu'à Paris ou Londres soient le mieux organisés possible. Je quitte l'Ukraine en voiture pendant la nuit, quand il n'y a pas de file d'attente au contrôle des frontières. Je connais désormais les différences entre l'aéroport de Baia Mare en Roumanie et celui de Debrecen en Hongrie. Et je sais où et quand les correspondances sont les meilleures. Mais au fond, le plus important pour moi n'est pas de partir, mais de revenir. En retour, sans retard et sans encombre. Pour m'assurer que rien d'encore plus grave ne s'est passé durant mon absence. Pour m'assurer que la géographie de l'Ukraine et plus généralement ma géographie intime n'ont pas complètement disparu, qu'elles n'ont pas été consumées dans le feu de la guerre.
Qu'il est beau ce texte, André Kourkov. Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que vos belles abeilles grises viennent de paraître aux éditions Liana Levy dans une traduction de Paul Leken. Tout de suite les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
À la fin du jour, dès que tout s'efface, j'avance dans la nuit, amer et meurtri, si triste que je laisse les papillons noirs posséder mon cœur et ma mélodie. chante la plus triste des chansons de ce triste monde. Amis des hommes chantés qui connaissaient le prix de la mère vérité, venez vous rassembler. Car si le cœur est vide et la vie si vaine, qui va nous pleurer à la procession? Oh, oh, écoute, oh, oh, on chante la plus triste des chansons de ce triste monde. De ce triste monde. Triste monde.